France Culture.
Et si, au lieu d'écrire l'histoire de la philosophie comme celle de grands auteurs qui se seraient répondus les uns les autres depuis la Grèce antique, mettant ainsi en scène un interminable et soporifique relais, il était possible de partir du principe que la philosophie s'est toujours écrite au milieu du monde, s'intéressant d'abord aux affaires mêmes de ce monde. On la verrait alors aux prises avec un fait historique majeur, la colonisation suivie d'une décolonisation au moins partielle. C'est le pari qu'a fait Thierry Hoquet dans un essai aussi brillant que salutaire en ces temps antiphilosophiques de chasse au woke. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Et il sera rejoint par l'une des commissaires de l'exposition Paris Noir, Alessia Knock, qui nous rejoindra donc pour parler aussi de questions coloniales, pour parler aussi de la manière dont on écrit l'histoire, en l'occurrence l'histoire de l'art, et comment on est obligé en quelque sorte, et c'est une bonne chose, d'écrire différemment l'histoire de l'art comme on est obligé d'écrire différemment l'histoire de la philosophie désormais. C'est bien le projet qui est le vôtre, Thierry Hoquet, avec ce livre « Histoire décoloniale de la philosophie française, de la Renaissance à nos jours » qui paraît au PUF. Ce livre part d'une question simple, dites-vous. Vous constatez à un moment donné, j'imagine avant même de commencer ce livre, que après de longues années d'études de la philosophie et de pratiques d'enseignement de la philosophie et de recherche, vous vous sentez incapable de répondre à une question simple, dites-vous. Un philosophe français s'est-il exprimé contre la colonisation de l'Algérie dans les années 1830 ? Effectivement, c'est une question de culture générale, pourrait-on dire. Et avant de commencer cette enquête, vous n'étiez pas capable de répondre. Alors, je vous pose la question maintenant que vous avez fait cette enquête. Qu'en est-il ?
Avec surprise, on pourrait répondre que c'est Auguste Comte, par exemple, qui s'est élevé contre cette colonisation, qui a dénoncé dans l'entreprise coloniale en général un archaïsme.
Contemporain de cette colonisation, fondateur du positivisme.
Voilà, donc effectivement, mais avec une vision très large de du passé de l'humanité et de son avenir. Et dans cet avenir, il ne voyait pas de place pour une entreprise violente qui asservit et détruit. Donc il était pillé en tête contre cette entreprise militaire et il a prié à plusieurs reprises ou enjoint à plusieurs reprises le gouvernement français de rendre l'Algérie, sinon aux Algériens, du moins aux Ottomans qui étaient les anciens dominateurs du territoire.
Alors ce livre, c'est pas uniquement l'histoire de tous les philosophes ou de toutes les philosophies qui ont pris position contre la colonisation, à l'instar d'Auguste Comte que vous citiez. C'est pas davantage l'histoire de ceux qui l'ont légitimé. En fait, il y a les deux, évidemment, il y a les deux réalités dans cette histoire. Mais c'est surtout une manière de faire de l'histoire de la philosophie assez différente de celle qu'on connaît habituellement, parce que au-delà des grands auteurs qui s'enchaînent les uns aux autres, qui jouent à saute-mouton, dites-vous, vous essayez de replacer toujours la pratique philosophique, la publication de la philosophie dans les sociétés dans lesquelles elle se déploie, et donc avec l'actualité qui les environne en particulier, les grands faits historiques qui sont contemporains des philosophes qui écrivent. Et vous allez chercher au-delà des grands noms, ceux nettement plus méconnus, mais qui ont pu jouer des rôles importants. Vous vous étonnez d'ailleurs au début de votre livre, Thierry Hoquet, que cette manière de faire de l'histoire, ça fait bien longtemps qu'on la pratique dans l'histoire des sciences ou même dans d'autres sciences humaines et sociales, mais qu'en philosophie, on reste attaché, sans doute est-ce lié à l'apprentissage de la philosophie, la classe terminale, etc., à des histoires façon Lagarde et Michard de la philo, en quelque sorte.
Oui, en effet, et le livre, du coup, il a été partagé entre plusieurs projets concurrents. Vous en avez mentionné deux, il y en a plus peut-être, mais l'un, c'était revisiter les grandes figures à travers la question de la colonisation ou l'histoire de la colonisation, comment elles l'ont rencontrée ou pas. Et puis de l'autre, c'était essayer de trouver des philosophes peut-être moins connus, mais surprenants et intéressants, qui portaient également des voix concernant cette question. Donc j'ai essayé de tenir un peu les deux exigences, mais c'est vrai que aller trop loin dans la redécouverte des mineurs, mineurs, ça pouvait aussi déstabiliser complètement l'idée de ces coordonnées de la philosophie française telle qu'elle est enseignée et telle qu'on la connaît. Donc, j'ai
non,
pas lâché...
Non, rassurer les lecteurs, il y a encore...
voilà, je n'ai pas pu lâcher le projet de revisiter les grandes figures, mais du coup, ce que j'en présente, il me semble, est différent de ce qu'on entend et de ce qu'on lit d'habitude.
Vous avez choisi d'ouvrir et de commencer avec cette date, 1492, qui est très importante évidemment pour les historiens, qui fait immédiatement penser à la découverte de l'Amérique. Mais en fait, c'est pas que ça. Il se passe des choses dans le sud de l'Europe, en Espagne, il se passe des choses avec les religions. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans cette année 1492, en fait, Thierry Hoquet.
Oui, alors bon, on a fait de cette date une sorte de point de bascule. Et c'est vrai que c'est une date... qui a été notamment remise en avant par le philosophe argentin Enrique Dussel, qui a étudié un peu ce qui s'était passé pendant cette année, dont on fait, si vous voulez, le commencement de cette modernité et de cette entreprise, je ne sais pas si on doit l'appeler dès 1492 coloniale, mais en tout cas d'invention du monde et d'invasion du monde. Et donc, c'est une histoire qui est essentielle pour comprendre, disons, le développement de la pensée européenne, mais une histoire aussi dans laquelle on pourrait penser que la France a joué un rôle seulement périphérique. Donc, il y avait une sorte de paradoxe ou de difficulté à essayer de comprendre comment le développement de la pensée française pouvait être rattaché à cette conquête du monde qui est avant tout un événement ibérique, un événement portugais et espagnol. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que, finalement, la France a participé assez tôt à toutes ces affaires, qu'elle a sans doute raté l'occasion d'embaucher Christophe Colomb, mais que malgré tout, le géographe qui nomme ou qui publie la première carte avec America dessus, c'était à Saint-Dié dans les Vosges. Le Brésil est une terre pour les Français d'installation avec ce qu'on a appelé le projet de France Antarctique. Et ça a un impact direct sur l'histoire de la philosophie, puisque Montaigne raconte avoir rencontré à Rouen des Tupinambas en 1562. Donc, on a cette idée que tout de suite s'embraye dans ce texte majeur que sont les essais de Montaigne, la présence de ces autres mondes, et plus encore, je dirais, la présence de ces autres voix, puisque ce n'est pas que Montaigne parle des autres mondes, il s'intéresse évidemment à ces autres mondes, mais il fait entendre la voix des Tupinambas, et il fait entendre la critique qu'il porte à la société française.
Donc vous faites démarrer votre histoire, au fond, par ce livre de Montaigne et par ce texte en particulier.
Oui, parce que alors, il y avait bien des manières sans doute de faire commencer la philosophie en France autrement que dans ce texte-là. Mais il me semble que là, on avait vraiment... Pour moi, c'était ce geste singulier de faire entendre le regard, la voix des Tupinambas sur le mode d'organisation sociale et politique de la France. Cette voix qui est portée par les Tupinambas, elle est d'une radicalité critique tout à fait sidérante, puisque c'est un dialogue qui est censé se passer en présence du roi, et à la fois les Tupinambas dénoncent une société dans laquelle les pauvres et les riches s'ignorent complètement, une société divisée en deux, et sans comprendre pourquoi finalement, comment ça fait pour coexister finalement de telles inégalités. Et l'autre chose, c'est que les Tupinambas ne comprennent absolument pas pourquoi des hommes forts, musclés, armés, s'en remettent à l'autorité d'un petit enfant, voilà, qui est le roi Charles IX, je crois, à l'époque.
Alors, en plus, Montaigne ouvre quelque chose qui va être repris, parce que vous enchaînez tout de suite avec la Boétie, et qui va s'intéresser à ces Tupinambas à la suite, en quelque sorte.
Oui, voilà. Alors, ce qui m'a semblé voilà, aussi symbolique ou important dans ce geste de Montaigne, c'est qu'il est repris. Et on n'a pas l'habitude, peut-être, de lire le discours sur la servitude volontaire de la Boétie à partir des Nouveaux Mondes, mais ça a été fait notamment par Pierre Clastres, qui a identifié dans ce discours de la Boétie qu'on a parfois lu comme un pur texte de rhétorique écrit par un très jeune homme, hein, mais lui, il a vu là une sorte de portée critique, et puis surtout cette idée que les peuples du Nouveau Monde vont servir, enfin vont irriguer la pensée utopiste, la pensée socialiste, jusqu'à très tard, enfin jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, et que donc cette idée de peuples qui vivent différemment de nous, et je dirais même des peuples qui vivent sans un ensemble de choses qui nous paraissent essentielles, sans roi, sans loi, sans religion, voilà, tout ça peut être discuté, mais en tout cas, c'est le sens qu'on leur donne, et bien que tous ces peuples donnent nous interrogent en retour sur ce qui nous paraît indispensable, à savoir tous les principes d'autorité auxquels nous nous soumettons.
Ce qui est intéressant en vous écoutant, vous parliez tout à l'heure d'Auguste Comte, peut aussi considérer comme sociologue autant que philosophe. En vous écoutant parler de Montaigne ou la Boétie, on se dit qu'après tout, c'est des anthropologues. C'est que la philosophie comporte déjà, dès cette époque-là, ce qui va devenir les sciences sociales, au fond.
Oui, alors, y a un discours de Lévi-Strauss qui explique que l'ethnographie a véritablement une portée révolutionnaire, en fait, parce qu'effectivement, la découverte, l'étude des autres peuples nous enseigne finalement une forme de relativisme. En tout cas, c'est la leçon qu'on en tire souvent. Ce qui est frappant, c'est que malgré tout, il me semble que chez Montaigne, on ne s'en tient pas à ce relativisme et que il persiste à penser qu'il y a des normes qui nous permettent de juger de ce qui est barbare ou de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, il y a ce sens fameux qui dit « est barbare pour un peuple donné tout ce que font les autres et qu'ils ne font pas », mais il dit malgré tout, il y a une norme par rapport à laquelle on peut dire que nous sommes plus barbares qu'eux, et puis il y a une autre manière de dire, on peut dire « ils sont aussi barbares eu égard aux règles de la raison ». Donc ici, on a quelque chose qui n'est pas simplement du relativisme, mais on a bien des manières de juger que certaines choses qui sont faites dans le monde ne doivent pas se produire et qu'on a le droit de s'indigner contre ce qui se passe à tel ou tel endroit.
La suite de cette histoire de la philosophie vous amène là où elle aurait pu commencer si elle avait été peut-être plus canonique au fond, c'est-à-dire avec Descartes, cette figure tutélaire de qu'on associe souvent à la naissance d'une philosophie qui serait spécifiquement française. Vous n'y échappez pas et vous proposez de Descartes une lecture un peu différente de celle qu'on lit d'habitude, une lecture qui le place au fond aussi dans ce contexte, dans ce moment et face au milieu du monde et face à ce qui est déjà une forme de colonisation, même si c'est pas encore la construction, loin s'en faut, de l'empire français.
Thierry Mouquet. Alors d'abord sur ce point, effectivement, qu'est-ce qu'on appelle la colonisation, qu'est-ce qu'on appelle l'empire, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, en fait, c'est qu'on voit qu'il y a des établissements fragiles, des entreprises soutenues par l'État, etc. Il y a des esclaves dans les colonies qui arrivent à certains moments. Donc tout ça, ça a une histoire, ça a une sorte de fragmentation chronologique. Et donc, de même qu'il n'y a pas vraiment de colonisation à cette époque, il n'y a pas non plus du coup d'anticolonialisme à rechercher. Voilà. Et ça, c'est des choses dont débattent les historiens. Mais voilà, c'est intéressant de poser à chaque époque, disons, les questions qui correspondent à l'état des institutions, au sens très large, de cette époque. Alors Descartes, justement, on pourrait se dire, il ne parle pas de ce qui se passe dans les Amériques parce qu'il ne se passe rien dans les Amériques. Et en fait, c'est faux. Et Descartes, qui s'est exilé en Hollande, avoue dans certaines lettres être en un endroit où tous les jours, des gens reviennent du Nouveau Monde. Il a même son ami Denis Mélan qui part en mission aux Amériques. Mais en fait, à aucun moment, et ça c'est vraiment quelque chose pour moi de stupéfiant, Descartes ne semble se préoccuper de ce qui se passe là-bas. Il dit à Mélan... pourquoi partez-vous convertir les athées dans ces terres lointaines alors qu'il y en a tellement à convertir ici en Europe mais au moins j'ai l'assurance que vous reviendrez parce que tous les jours je vois des gens qui reviennent de ces Amériques. Alors sachant tout ça, qu'a fait ou qu'a pensé Descartes de ces nouveaux territoires, de ces nouveaux peuples? On n'en trouve pas trace. On n'en trouve pas trace. Mais c'est là que la figure de Henrique Dussel revient. C'est que ce philosophe, donc, a subverti un des concepts centraux de la pensée cartésienne, puisqu'il a proposé d'interpréter le célèbre « je pense » de Descartes, le « cogito », comme un « conquiro », comme un « je conquier ». Et donc, il a dit, en fait, si Descartes a pu dire « je pense donc je suis », c'est parce qu'il est, en quelque manière, un héritier des conquistadors ibériques. Et son « je pense » n'a été rendu possible que parce qu'il y avait cette sorte d'assurance européenne.
De sentiment de supériorité.
Supériorité militaire, supériorité de violeur, enfin, ce sont les termes de Dussel. Et en fait, ça a quelque chose effectivement de sidérant, d'autant plus sidérant que Descartes, vraiment, il faut vraiment chercher très très loin pour trouver la moindre trace des Amériques dans son texte. Une autre trace qu'on a, c'est qu'il a cité un certain Rubio qui avait publié une logique au Mexique. Donc, c'est très peu de choses. Mais Dussel, à partir de ça, construit quelque chose et qui ne peut que nous interroger, finalement, puisque, effectivement, ce « je pense » cartésien, il est devenu l'emblème non seulement de la philosophie française, mais aussi, plus généralement, de tout l'idéalisme européen.
Alors, on disait tout à l'heure que vous n'intéressiez pas qu'aux grandes figures. Face à Descartes, précisément, l'un de ses auteurs mineurs, pour reprendre le mot que vous employez tout à l'heure, Pierre Gassendi, est très intéressant parce que lui, à la différence de Descartes, va prendre en considération en fait cette réalité historique, cette situation contemporaine dans laquelle il se trouve.
Alors, Gassendi, en effet, est très important. Je l'ai toujours adoré, la manière dont Descartes le méprise, en fait, dans les cinquièmes réponses aux méditations métaphysiques. Il éprouve vis-à-vis de Gassendi une sorte de dédain monstrueux. Il l'appelle chair, au sens de la carne, quoi, voilà. De même que Gassendi l'appelle l'esprit. Mais c'est un disciple de Gassendi qui va publier un monumental abrégé de la philosophie de Gassendi qui s'appelle François Bernier, qui m'intéresse ici parce qu'il va aller, lui, voyager dans l'Ancien Monde jusqu'à l'Empire Moghol et il va rapporter de ses voyages, on peut dire, et de ses séjours lointains, des considérations sur la différence des peuples. Et là, on a une sorte de contrepoint très net par rapport à Descartes, puisque, en fait, Descartes, il nous propose un sujet, un « je pense », qui est complètement abstrait, comme une boîte vide dans laquelle n'importe qui peut se mettre. Et du coup, ça peut être une femme, ça peut être une personne de couleur, je ne sais pas si ça peut être un enfant, mais en tout cas, toute personne adulte, un ensemble de personnes peuvent être, indépendamment de leur sexe ou de leur race, présents dans ce « je pense », s'identifier à ce « je pense ». Alors que, du côté de Bernier, c'est l'idée que chaque pensée, chaque individualité humaine est liée à une sorte de climat, une sorte de territoire par ses humeurs. Donc c'est une théorie médicale de la subjectivité qui inscrit chaque personne, et je dirais même qui condamne chaque personne à n'être que ce que ses fibres lui permettent d'être. Donc, à ce moment-là, on se dit, alors Descartes, abstrait, n'a jamais voyagé, est resté comme ça, dans une sorte de sujet désincarné. Mais finalement, n'est-il pas plus libérateur que Bernier, qui lui a beaucoup voyagé et qui a en quelque sorte enraciné chaque sujet dans les conditions de sa physiologie? Ça donne à réfléchir, je trouve.
Vous vous intéressez ensuite à tout ce qui s'écrit dans la philosophie française, mais pas que, parce que, on l'a pas dit, c'est une philosophie française, mais elle est jamais évidemment complètement coupée de ce qui peut s'écrire en anglais à la même époque, où elle est en dialogue, elle s'écrit en latin d'abord, et puis vous intéressez donc à ce qui se passe avant les Lumières, et qui est décisif sur cette question à propos de l'esclavage, à propos de la religion, en particulier des monothéismes. Là, il y a tout un pan de l'histoire qui est peut-être moins connu, en fait, parce qu'on a beaucoup insisté sur les Lumières, sur l'importance des Lumières, et évidemment de l'histoire après, mais ce moment entre Descartes et les Lumières est assez intéressant, j'ai trouvé, dans votre livre.
Oui, par exemple, on rencontre les Chinois à cette époque. Alors pourquoi des Chinois dans une histoire coloniale ? Bon, bah, on peut dire que les Chinois ont plus ou moins échappé à une colonisation complète, mais ils étaient en tout cas dans l'horizon des missionnaires. Et on a essayé de les comprendre, de se traduire dans leur langue. Et ça, c'est très intéressant, au sens où on a essayé d'expliquer aux Chinois quel était le sens de notre Dieu, j'utilise un autre qui n'est pas le mien, mais bon, quel était le Dieu des chrétiens et pourquoi il était supérieur à celui des Chinois. Mais du coup, dans ce processus, et ça, je trouve ça vraiment passionnant et ça me semble être une clé pour toute cette histoire, c'est-à-dire que la philosophie, c'est-à-dire un ensemble de concepts, y compris le concept de Dieu, mais même le concept de religion, ont dû se traduire. Et quand on se traduit, on est obligé de s'adapter à un autre contexte linguistique, mais aussi culturel. Et donc, c'est en particulier la figure du philosophe disciple de Descartes, Nicolas Malebranche, qui m'a intéressé ici, puisqu'en fait, il est entré en polémique avec les missionnaires en disant « Comment vous avez traduit le Dieu de l'Exode, celui de l'Ancien et du Nouveau Testament ? Vous l'avez traduit dans les termes chinois de « Seigneur du ciel », de « principe de raison ». Vous l'avez matérialisé, vous en avez fait une sorte de Jupiter. Ça n'est pas conforme à la conception du vrai Dieu. » Et donc, Malebranche donne des leçons aux missionnaires en leur disant comment il faut parler de Dieu aux autres peuples. Mais ce faisant, et c'est ça l'ironie de l'histoire, ce que je trouve absolument piquant, c'est que par, on pourrait dire, intégrisme hein, ou absolutisme quant à la nature de la divinité, Malebranche en vient à utiliser des formules tellement abstraites qu'il se voit accusé à son tour de spinozisme, donc d'une sorte de matérialisme. Et donc, en voulant dématérialiser la manière dont on parle de Dieu aux Chinois, lui-même tombe dans une autre manière. Il tombe dans une sorte de Dieu monstrueux et abstrait, comme la substance unique de Spinoza dans l'éthique.
La façon dont vous rentrez dans les Lumières, c'est avec la question du voyage. En posant cette question, qui est de savoir si la philosophie doit voyager à ce moment-là. On est en pleine... les découvertes, comme on disait, continuent. À l'époque, beaucoup d'informations arrivent. Et cette ethnographie dont vous parliez tout à l'heure se fait de plus en plus riche, en fait, abondante. Qu'est-ce qu'en fait la philosophie ?
Je pense que la question de savoir si la philosophie doit voyager, c'est d'abord la question de savoir comment la philosophie s'informe. Donc, comment justement elle apprend du monde. Et c'est Rousseau en particulier, bien sûr, qui pose cette question, hein, c'est-à-dire comment pouvoir raisonner sur l'humain, ses variations, ses limites, à partir d'informations qui nous viennent d'informateurs de piètre qualité. Des marins, des soldats, des marchands et des prêtres. Donc là, elle est la question, c'est-à-dire comment prétendez-vous, les philosophes, comment prétendons-nous parler de l'humain en général sans avoir jamais quitté l'hexagone, on va dire. Donc ça, c'est une question qui est tout à fait importante. Et l'autre question du voyage... Je dirais, enfin, avec des guillemets à voyage, bien sûr, mais c'est la question de savoir si les esclaves des Antilles peuvent voyager, peuvent traverser l'Atlantique et arriver, quitter un territoire français, sous autorité française, traverser l'Atlantique et venir, donc, dans la France européenne. Eh bien, à l'époque, ça ne va pas de soi du tout. Et c'est pas tout à fait passionnant. Et les historiens, Éric Noël notamment, ont montré tous les problèmes juridiques que ça pouvait poser. Hein, le fait qu'un propriétaire d'esclaves des Caraïbes vienne en France avec ses esclaves, est-ce que, du même coup, les esclaves se trouvaient libérés automatiquement ? Donc il y a des procès tout à fait fascinants qui sont reconstitués et qui sont vraiment saisissants à lire. Et on retrouve la trace d'un ancien édit de 1315 de Louis le Hutin qui dit que toute personne qui met le pied sur le territoire des Francs, de la France, est affranchie. Et donc, qu'il ne peut pas y avoir d'esclaves en France. Alors vous allez me dire, mais oui, mais à l'époque, il y avait quand même des galériens, il y avait quand même des prisonniers. Donc ça pose des questions tout à fait passionnantes sur le droit naturel et savoir si les êtres humains naissent libres et s'ils le demeurent par la suite. Donc voilà, on voit déjà la révolution en germe qui pointe le bout de son nez. Voilà.
C'est le chapitre d'après, ce chapitre qui précède ce moment de la colonisation à proprement parler, qui est évidemment autour de la question de l'universalisme. Et puisqu'il s'agit de philosophie française, cette prétention qui reste encore très très forte, plus de deux siècles après, en France, à considérer que l'universel prend sa source en France, alors même que la révolution britannique a eu lieu 100 ans avant, que la révolution américaine a précédé la révolution française. Mais enfin, malgré tout, en France, on croit qu'on a inventé cet universel, ce qui est aussi le cas de la philosophie française, j'imagine, Thierry Hoquet.
Oui, alors, là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, ce qui paraît... beaucoup de gens, très clairement, relevés de ce qu'on pourrait appeler la mythologie nationale. Donc, et on voit ça partout dans cette littérature sur la colonisation. Quand les Français, ou parfois on dit même les Gaulois, se rendent quelque part, ils sont bonhommes et ils véhiculent la liberté avec eux, ils la transmettent, etc. Bon, évidemment, là, on voit qu'il y a quelque chose de presque ridicule hein, dans cette affaire. Mais ce qui est très frappant quand on étudie les discours des esclaves révoltés, à Saint-Domingue notamment, mais aussi en Guadeloupe, en Martinique, on voit que le discours de la Révolution, et en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier cette devise, hein, liberté, égalité, fraternité, produit des effets politiques et émancipateurs. C'est-à-dire, c'est pas juste les Français qui claironnent en disant « Regardez, nous sommes la nation de la liberté ». Ce sont les dominés, ce sont les esclaves qui se rebellent en disant « Soyez conformes à vos propres préceptes ». Et ça, c'est une parole qui va...
d'empowerment de ces concepts, au fond.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, on s'approprie le discours et on le retourne contre l'oppresseur. C'est quelque chose qui va encore saisir Maurice Merleau-Ponty dans les années 1950, qui va revenir sur ces épisodes hein, en disant la République s'est trouvée à plusieurs reprises dans son histoire, pas seulement au moment de la décolonisation, hein, mais déjà à l'époque révolutionnaire.
C'est ce qu'on connaît mal, haïtienne en particulier en France.
Absolument. Je vais y revenir, mais donc la République s'est trouvée confrontée à des ennemis, des adversaires qui chantaient le « ça ira ». C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les adversaires de la République, mais qui voulaient au contraire que la France soit conforme aux idéaux qu'elle promeut et propage. Donc ça, c'est très important. Et donc j'ai dit que j'allais revenir sur
Haïti.
Ah oui, sur Haïti. Évidemment, c'est une affaire extrêmement douloureuse, extrêmement complexe. Et bien sûr, moi, je n'ai pas de lumière particulière sur cette histoire. Hein. Ce qui me frappe, en fait, c'est sans doute de voir à quel point, et ça c'est, je veux dire, ce qui me frappe en tant que philosophe, si vous me permettez l'expression, c'est de voir à quel point l'histoire est un tissu de confusion, de chaos, d'intérêt, etc. Donc voilà, pour moi, j'aime la puissance des idéaux, je viens de le rappeler. Voilà, je trouve que les idéaux, le concept d'humanité, le concept de liberté, d'égalité, de fraternité, tout ça, ce sont des idées qui transforment les humains et qui les aident à grandir. Quand on fait de l'histoire, quand on regarde ce qui se passe, c'est toujours complexe, toujours sale.
Ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça. Ceux que je cite à propos de la révolution haïtienne, hein, les discours, bien sûr, de Toussaint Louverture, mais aussi de Louis Delgrès, ou bien d'autres discours, eh bien, on s'aperçoit que on est frappé en tant que philosophe de la puissance de ces discours émancipateurs. Quand on lit les historiens, ils vont vous dire « Ah oui, mais Toussaint a possédé des esclaves. » Ils vont vous dire « Ah, mais Biassou et d'autres révolutionnaires haïtiens étaient en réalité des mercenaires au service de l'Espagne. » Et donc, c'est vrai que le philosophe tombe régulièrement de sa chaise quand il se confronte à la complexité des réalités historiques.
on arrive presque au terme de la première partie, je m'aperçois qu'on a mis l'accent, mais c'est un peu volontaire, sur la période qu'on associe peut-être le moins à cette séquence colonisation-décolonisation. Mais en fait, cette colonisation, elle commence bien plus tôt. Vous l'avez fait commencer en 1492. Et c'était intéressant de s'arrêter. Peut-être qu'on va avoir l'occasion, dans la deuxième partie de l'émission aussi, de revenir sur ces moments peut-être un peu plus connus, surtout pour la partie de la décolonisation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants, et vous en faites également une histoire très précise, Thierry Hoquet. On va, dans cette deuxième partie de l'émission, parler d'une autre manière de faire autrement une histoire, en l'occurrence une histoire de l'art, à propos de l'exposition Paris Noir 1950-2000, qui propose de prendre en compte des artistes et des œuvres qui jusque-là étaient peut-être laissées, étaient laissées de côté très très largement. C'est le grand mérite de cette exposition. Alicia Knock va nous rejoindre. Elle est l'une des commissaires de cette exposition pour en parler. Mais c'est après un extrait du deuxième album d'un groupe qui s'appelle Ribbon Skirt et le morceau Off Res.
I'm gonna break it.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
En cette semaine d'émission télévisée du président de la République et d'audition du Premier ministre au Parlement, on sera vraiment dans l'actualité pour la rubrique actualité de cette émission avec la professeure de droit à l'Université Paris, Marianne Coandet, qui nous rejoindra pour parler d'un colloque qui s'est tenu il y a quelques jours à l'Université d'Aix-Marseille, dont le titre est en lui-même déjà très intéressant, des pratiques inconstitutionnelles à la nomopathie de la Constitution. Mais ça, c'est pour la fin de l'émission. Pour l'instant, on continue à parler d'histoire décoloniale de la philosophie française et d'histoire de l'art. À propos de l'exposition Paris Noir, bonsoir Alicia Knock. Vous êtes l'une des commissaires de l'exposition, vous êtes aussi la directrice de l'ouvrage de ce catalogue très important de l'exposition, ce qui permet aussi de découvrir des artistes qui ne figurent pas d'ailleurs dans l'exposition. La raison en est simple, c'est que en faisant ce travail considérable qui consiste à mettre à jour au fond des œuvres et des artistes un peu trop oubliés ou mal connus, vous en avez découvert plus probablement que ce que vous aviez imaginé.
Oui, c'est-à-dire que c'est... Bonsoir Sylvain, merci pour l'invitation. Parler de cette exposition importante qui est surtout plus qu'une exposition pour nous, pour l'institution. Et effectivement, la présence de d'un très grand nombre d'artistes dans l'exposition, dans le catalogue, c'est surtout parce que ça s'inscrit dans un travail patrimonial, dans un travail de recherche qui est là à la fois pour essayer de vraiment d'asseoir ce travail dans l'institution dans un temps long qui a commencé. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'institution.
C'est un jalon l'exposition.
C'est un jalon, c'est un work in progress, c'est indiqué un travail en cours, et puis c'est aussi effectivement un appel à l'université en France, un appel aux institutions collègues aussi pour prendre en charge ces histoires de l'art, ces histoires de l'art qui sont des histoires collectives qui doivent venir nous aider à redéfinir aussi effectivement les récits de l'histoire de l'art du XXe siècle, mais aussi voilà beaucoup d'histoires individuelles, de trajectoires monographiques qui doivent absolument être déployés dans des expositions. Et donc, voilà, j'espère vraiment que les musées, les institutions nationales et bien sûr les musées de région aussi vont pouvoir trouver dans cette exposition et dans ce premier livre des sources d'inspiration pour déployer vraiment plus de choses. C'est une cartographie et c'est un programme institutionnel et de recherche. Il y a un enjeu de sauvetage aussi des œuvres et des archives,
voilà,
qui est important.
Oui, parce que bon, c'est 1950-2000, ça veut dire que ça comprend des artistes qui sont morts, pour certains, depuis peu de temps, et pour d'autres qui sont encore vivants, donc il y avait une forme d'urgence, au fond.
Il y a une urgence absolue, en particulier parce que... Parce qu'il y a des enjeux aussi même de conservation, que étant donné que les œuvres effectivement sont énormément aux mains des familles, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de relais institutionnels ou même du marché de l'art. Je parle notamment des Outre-mer français. Qui sont vraiment dans une situation d'isolement
importante. Des artistes importants qui n'avaient pas nécessairement de galeries, qui n'avaient pas été achetés par les musées, par les collections.
Voilà. Très très peu. Et effectivement, donc ces œuvres sont dans les mains des familles qui savent pas forcément comment préserver ces œuvres, comment les conserver. Et puis ensuite, bien sûr, comment conserver et archiver. Et puis effectivement, leur donner la place qui est la leur dans les récits de l'histoire de l'art.
Comment vous avez procédé du coup pour dresser cette cartographie, cet état des lieux dont on a compris qu'il était provisoire, enfin il va être encore...
En cours.
Il va être complété, il va être enrichi.
Effectivement. Donc ça s'inscrit dans un temps long. Donc moi ça fait 10 ans en particulier que j'ai commencé à faire beaucoup de terrain. Donc ça rejoint un petit peu la conversation qu'on a eue juste avant, la question effectivement de se confronter tout simplement à des sources qui n'étaient pas existantes dans, dans un certain nombre de cas, même si bien sûr il y a des archives, il y a des livres, et il y a des institutions qui ont fait ce travail, notamment du côté américain, et puis des universités aussi qui ont fait ce travail. Et ça, il faut saluer le travail qui est mené dans cette ère dominée par effectivement les inquiétudes autour du régime trumpiste. C'est vrai qu'il faut voir qu'aux États-Unis, il y a des universités noires américaines qui font un travail continu, je veux dire, qui est Trump au pouvoir ou pas. Donc c'est un travail extrêmement important et qui continue et qui ne s'interrompt jamais pour préserver l'histoire, la mémoire des artistes africains-américains aux États-Unis, leurs archives, leurs œuvres, etc. Mais effectivement, donc la question du terrain a été importante. Donc j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup, j'ai fait le choix de beaucoup me déplacer sur le continent africain et dans une histoire que j'ai voulu prendre dans le moment postcolonial qui est peu raconté, qui est peu pris en compte tout simplement justement dans cette redéfinition des récits qui est une histoire panafricaine, c'est-à-dire j'ai toujours été sur le terrain au-delà du monde francophone et c'est cette écriture d'une histoire de l'art panafricaine, l'importance qu'a été bien sûr le Sénégal avec la politique culturelle de Senghor, mais aussi voir comment les luttes dans les pays lusophones ont aussi conduit à une grande mobilisation des artistes sur des questions politiques. Et puis l'Afrique de l'Est aussi a joué un rôle très important dans cette écriture, sans parler bien sûr de la lutte contre l'apartheid et de l'Afrique du Sud, qui a mené d'ailleurs un certain nombre d'artistes. Et on a plusieurs artistes sud-africains dans l'exposition, dont bien sûr notre icône, Gérard Sékoto, qui fait l'affiche de l'exposition et la couverture du livre. Donc je dirais qu'il y a eu un travail de terrain dans la Caraïbe aussi, aux États-Unis aussi. Donc, aux États-Unis, plutôt dans des archives et dans des archives de musées et d'universités, mais aussi auprès des familles et puis bien sûr dans la Caraïbe. Et puis ce travail finalement de terrain m'a toujours ramené à mon lieu, à Paris. Je rentrais souvent de mes voyages de recherche avec des pistes pour aller rencontrer des artistes qui étaient souvent très isolés en France. Ce travail de terrain ensuite c'est fait d'abord aussi toujours au contact d'historiens, d'intellectuels qui évidemment travaillent sur ces histoires depuis toujours. Et puis ça a été aussi un travail collectif. En fait, j'ai eu la chance de prendre la tête du service de la création contemporaine il y a 2 ans. Et ce projet d'exposition est devenu aussi un projet de service et un projet collectif qu'on a porté ensemble au sein de l'institution avec mes collègues commissaires associés, Eva Barouette Cavel, Aurélien Bernard, Laure Chaulot et Marie Siguier. Et puis bien sûr de très nombreux conseillers scientifiques issus des différentes géographies que l'exposition mobilise, même si elle affirme une histoire transnationale qui sort des carcans géographiques. Mais bien sûr, l'Afrique, la Caraïbe et les États-Unis sont des géographies importantes dont Paris a été un carrefour.
Et puis évidemment, Thierry Hoquet, on parlait d'histoire de la philosophie avant, là c'est de l'histoire de l'art, mais cette histoire de l'art est une histoire intellectuelle aussi, des intellectuels. Il y a très tôt dans l'exposition la photographie de présence africaine, cette librairie, le congrès mondial qui regroupe à la fois des artistes, des écrivains, des intellectuels. On peut pas faire tout à fait la part des choses, c'est-à-dire que tout c'est à la fois panafricain et c'est panartistique ou panintellectuel en quelque sorte.
Oui, absolument. Hein, j'ai été tout à fait saisi hein, par ce Paris monde entièrement englouti, mais que vous avez du coup vraiment ressuscité. Vous nous montrez sa complexité. J'ai écouté aussi les très intéressantes capsules qu'il y a sur le site du centre Pompidou là, mais Beaubourg. Mais c'est vraiment fascinant. J'ai noté des phrases de Glissant notamment. C'est Colomb qui est parti et c'est moi qui suis revenu en 57. Et puis Paris est une île qui capte de partout et diffracte aussitôt. J'ai trouvé ça très très beau et ça donne cette idée d'un pari totalement inattendu finalement avec toutes ces rencontres qui se passent et que vous reconstituez.
Oui, c'est vrai que cette histoire intellectuelle, bon, elle est intellectuelle parce que elle est aussi politique, parce que bien sûr elle recouvre toute cette épopée de l'émancipation et de la marche pour l'égalité qui est toujours en cours et plus que jamais. Et aussi, c'est pour ça qu'on voulait mettre la figure de l'artiste en avant aussi dans cette affiche. C'est vrai que ces artistes, c'est non seulement des créateurs, créatrices qu'on a peu vus, mais c'était souvent aussi eux-mêmes des poètes, des philosophes. Des ambassadeurs culturels et parce qu'il fallait aussi qu'ils prennent en charge toute cette à 360 degrés non seulement la possibilité de créer mais l'idée aussi d'entrer dans l'histoire, d'écrire l'histoire parce que personne n'allait l'écrire aussi pour eux, pour elles. Donc c'est aussi une des grandes richesses et c'est pour ça aussi que j'ai hâte de voir les expositions monographiques pour déployer cette complexité. Et aussi merci pour Glissant, c'est vrai qu'on a Paris dans ce Paris noir n'est pas tant la capitale de l'Empire, plutôt l'opposé. Donc on a voulu mettre au centre cet espace justement circulaire, cette matrice qui rend hommage justement à Édouard Glissant et qui nous parle justement plutôt de ce Paris transit, Paris porte vert, Paris relationnel, Paris espace de débat aussi, et qui est toujours dans le mouvement en fait, et qui permet effectivement toutes ces ramifications qui rendent l'exposition assez labyrinthique aussi, et on assume aussi cette complexité, cette pluralité de cette expérience noire aussi, qui est par définition une expérience syncopée.
Thierry Houquet disait « Paris englouti », c'est vrai largement, et en même temps quand même, je voulais vous donner l'occasion de nous dire que vous avez passé des commandes aussi pour cette exposition auprès d'artistes vivants que vous avez souhaité solliciter dans une démarche qui contrebalance en quelque sorte la démarche historique en fait.
Alors pas vraiment parce qu'en fait on a demandé à 4 artistes qui faisaient partie du projet et des bandes chronologiques qu'on s'était donné on est resté assez strict sur cette chronologie, mais par contre il nous a semblé très important de leur permettre justement de produire des formes d'historiographie et de revenir sur leur présence à Paris. Donc c'est effectivement la dernière génération de l'exposition qui a travaillé à Paris, qui s'est formée, qui a vécu à Paris dans les années 90, mais de leur donner la possibilité de porter un regard dynamique sur ce que ce moment avait signifié et de pouvoir transmettre ce recul sur l'histoire au public. Et par exemple, on voit quelqu'un comme Chuck Wan, qui est un des pionniers du graffiti à Paris, guadeloupéen, qui lui va relire un peu toute la chronologie de l'exposition pour nous parler justement ce qu'a été pour lui d'entreprendre et de s'inscrire dans cette histoire pionnière du graffiti à Paris à la fin des années 90. Et finalement, voilà, il va nous rappeler que pour lui, le graffiti, c'était surtout d'avoir grandi avec les slogans indépendantistes de Guadeloupe. Nous reposer, bien sûr, l'histoire du Buidom, mai 67, et puis les grandes figures de décolonisation qui ont inspiré et qui inspirent son parcours, et tout ça sur un grand plan de Paris, où on voit effectivement ces strates. Et cette question de l'engloutissement, je dirais que, oui, c'est peut-être plutôt l'opacité de Glissant, et l'engloutissement, c'est sur surtout, ça a été une stratégie politique. Ces histoires sont très puissantes. Elles n'ont jamais été cachées. Elles ont été, elles ont coexisté avec, comme ce dont vous parliez par rapport aux essais de Montaigne, etc. C'est qu'en fait, c'est juste qu'on a dans l'institution, on n'a jamais voulu les mettre en lumière, mais elles ont jamais disparu. Elles n'ont pas eu voix au chapitre.
Mais ça, c'est une spécificité assez française. Vous parliez des États-Unis, enfin, en tous les cas, des États-Unis d'avant, en quelque sorte, comme un endroit assez différent de ce point de vue. Histoire de la philosophie décoloniale, histoire de l'art décolonial aussi, avec le dé entre parenthèses, parce que c'est à la fois colonial et décolonial, les deux sont pris en compte. L'exposition Paris Noir, on peut la voir jusqu'à la fin du mois de juin au Centre Pompidou, avant que le centre ferme le bâtiment. Ça ne veut pas dire que le centre arrête ses activités, mais il les déploie ailleurs. On trouve la référence, les informations pratiques sur la page de l'émission, ainsi que la référence bibliographique au livre dont nous parlions aujourd'hui de Thierry Hoquet, Histoire décoloniale de la philosophie française, qui paraît aux presses universitaires de France.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité qui est le lieu, vous le savez depuis le début de l'année, pour la suite dans les idées, de parler des revues. J'en profite pour dire que Thierry Hoquet désormais dirige l'importante, excellente revue Critique depuis quelques mois maintenant. Et on a eu l'occasion d'en parler, on aura l'occasion de parler de futurs numéros, c'est évident. Aujourd'hui, c'est pas une revue, c'est un colloque. On parle aussi des colloques dans cette rubrique actualité ou des événements scientifiques de manière générale. Je voulais qu'on revienne sur un colloque qui vient de se tenir les 5 et 6 mai derniers à l'université de Aix, sous la direction de Xavier Magnon et Ariane Vidal-Naquet. Un colloque dont le titre peut paraître curieux à ceux qui ne sont pas nécessairement spécialistes de droit public. Des pratiques inconstitutionnelles à la nomopathie de la Constitution. Et pour en parler, j'ai proposé à Marianne Coandé d'être en ligne avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez participé à ce colloque. Pratique inconstitutionnelle, on voit bien de quoi il s'agit. On a le sentiment qu'on est parfois au-delà de ça, avec cette idée de nomopathie, de régime politique qui se développe à côté, en quelque sorte, des constitutions, Marianne Coandé?
Oui, alors plus globalement, bonsoir, plus globalement, nomopathie, nomos, nomoi, la norme en grec, et pathos, pathein, la pathologie, la souffrance, la maladie. Donc, quel est le problème quelle est la pathologie des normes constitutionnelles lorsqu'elles ne sont pas appliquées, lorsqu'elles sont violées, lorsqu'elles sont contredites? C'était un peu l'interrogation générale sur laquelle nous étions invités à discuter par Ariane Vidal-Naquet et Xavier Magnon. Et on s'est régalé parce que c'est une vraie, grande, belle question de droit constitutionnel. Et ça fait très plaisir d'avoir l'occasion d'en discuter de manière approfondie. Et alors, on est parti vraiment de l'actualité, hein, avec un Trump, par exemple, qui a été interviewé il y a peu de temps. On lui posait la question « Avez-vous le devoir de respecter la Constitution ?» Et Trump de répondre « Je ne sais pas. J'ai des conseillers qui me le diront. » Là, les bras nous en tombent. Donc, la vraie question, elle est là. Est-ce que c'est un problème qu'on ne respecte pas les règles de droit? De quel point de vue? À partir de quand est-ce qu'on viole ou pas une règle de droit? Comment? Est-ce que c'est un problème spécifique en droit constitutionnel? Montesquieu, et il en reste des traces dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de notre Constitution, la raison d'être d'une Constitution, c'est de limiter le pouvoir. Article 16 de la DDHT, de la Déclaration des droits de l'homme, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc c'est bien de déterminer tout ça, mais encore faut-il le respecter. Donc voilà un petit peu les bases desquelles nous sommes partis, avec déjà une belle introduction de Régis Ponsard, qui a présenté un petit peu l'ensemble de la problématique. Et puis après, on a fouillé successivement trois grandes questions. Dans un premier temps, la question des normes et de la régularité dans les sciences sociales, avec des politistes, historiens, philosophes, sociologues. Ensuite, on s'est interrogé sur les discours juridiques, sur les pratiques anticonstitutionnelles, hein, avec toute la gradation, on y reviendra, sur ce qui est inconstitutionnel, anticonstitutionnel, violation de la Constitution. Et puis, quelle pathologie, justement, de la normativité constitutionnelle? Pourquoi est-ce qu'on a cette nomopathie, donc mot inventé par Ariane Vidal-Naquet et Xavier Magnon? Quel est le problème, hein? D'où vient la maladie? D'où vient le mal? Et quelles en sont les conséquences? Donc voilà les grandes lignes de ce colloque.
Alors vous citiez l'actualité américaine. Moi, je partais d'une actualité française. Vous parliez de séparation des pouvoirs. C'est vrai qu'on est dans cette constitution assez particulière de la Ve République, assez particulière dans le sens où l'application qui en est faite ne correspond pas nécessairement à ce qui est écrit dans les articles. C'est-à-dire, pour ne prendre que l'article 20 de la Constitution, par exemple, qui est censé régler le rôle du Premier ministre et du gouvernement. Et même dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est assez inédite depuis le mois de juillet dernier, à savoir un président de la République qui ne dispose pas d'une majorité même relative au Parlement, en fait, on semble-t-il, beaucoup de mal à faire en sorte que la Constitution soit bien comprise. Et je veux dire par là, pas seulement par les acteurs politiques, moi, personnellement, je suis frappé par le fait que les journalistes qui commentent la situation politique ont bien du mal, en fait, avec cette situation, Marianne Coandé.
Oui, et là, c'est tout à fait passionnant à étudier, parce que sous la Ve République, il y a tout un jeu de pouvoir qui s'est exercé sur l'image de la norme. C'est-à-dire que notre Constitution, si vous la lisez telle qu'elle a été écrite et pensée, elle est extrêmement claire. Les travaux préparatoires nous éclairent d'ailleurs très bien. On a un régime parlementaire, même si par la suite le président est élu directement par le peuple, ça reste un régime parlementaire. C'est-à-dire que c'est le peuple qui élit ses représentants, qui sont les députés, qui choisissent un gouvernement et qui le contrôlent. Et le chef de l'État, lui, a une mission d'arbitre et de garant. Donc vous citiez l'article 20, effectivement, c'est le gouvernement qui doit déterminer et conduire la politique de la nation parce qu'il est choisi par les représentants du peuple et parce qu'à tout moment, il peut être renversé par eux. Or, qu'est-ce qui s'est passé sous la Ve ? Eh bien, très rapidement, De Gaulle et ses successeurs ont violé la Constitution sur divers points. Et au début, les professeurs de droit poussaient des hurlements en disant que c'était inadmissible. Et puis, ils se sont rendus compte que les gens ne réagissaient pas. Et que les violations de la Constitution continuaient. Qu'on continuait à avoir un président qui dirigeait la politique à la place du gouvernement. Et qu'il était beaucoup plus qu'un arbitre. Alors, on a beaucoup réfléchi là-dessus. On s'est dit, oui, mais au fond, c'est pas dramatique. Puisqu'il y a une majorité absolue qui est d'accord avec le gouvernement, qui est du même bord que le président, tout ça n'est pas très grave. C'est un peu comme dans un couple, quand il y en a un qui fait beaucoup plus de charges ménagères parce qu'il est très amoureux de l'autre. Tant qu'ils sont d'accord, on se dit que c'est pas très grave. Et comme vous le disiez très justement, là où on a conscience du problème, c'est quand il n'y a plus d'accord entre les acteurs.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fait majoritaire, en fait.
Exactement. Alors, soit quand il y a encore un fait majoritaire, mais contre le président, c'est le cas de la cohabitation, alors là, il n'est plus du tout question que ce soit le président qui dirige la politique à la place du gouvernement. Enfin, on respecte l'article 5, le président est un arbitre, l'article 20, c'est le gouvernement qui gouverne. Et puis, actuellement, on est dans une situation un peu intermédiaire, où le président, n'ayant plus de majorité, ne peut plus tout diriger. Et on l'a bien entendu hier soir dans ce que disait M. Macron. Il lui disait, mais vous devez faire ci, ou qu'est-ce que vous faites? Et comme si là, si on était en monarchie, hein, c'était assez stupéfiant de voir ces questions dont tous les regards se tournent vers le président comme s'il était tout puissant, alors que non, pas du tout. Et en fait, pratiquement toutes les violations de la Constitution jusqu'à présent étaient motivées par le fait que la majorité est soumise au président. Or, maintenant qu'il n'y a plus de majorité, eh bien, on a une tendance du président qui voudrait continuer à diriger, mais le gouvernement ne l'entend plus forcément de cette oreille-là, il est beaucoup moins puissant. Et puis, surtout, cette division de la majorité fait qu'il faut discuter avec les autres, ce qu'on n'a pas du tout pris l'habitude de faire sous la Ve République, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays. Donc, on a une situation où, à la fois, c'est beaucoup plus problématique qu'il y ait des violations de la Constitution. Par exemple, le fait que le président ait choisi un gouvernement qui n'était pas du front de gauche, qui était pourtant arrivé en tête, c'est très embêtant. Même s'il y avait de fortes chances qu'il soit renversé, il aurait dû lui donner sa chance. Le fait, avant même cela, que Mme Borne ait été révoquée, c'est contraire au texte de la Constitution. Donc les violations de la Constitution sont beaucoup plus choquantes dans ce contexte-là, parce qu'on ne peut pas dire « oui, mais c'est pas très grave, puisque la majorité est d'accord ». Là, au contraire, on a quelque chose qui est beaucoup plus inacceptable, beaucoup plus problématique. Et pour autant, on est tellement habitué à la surpuissance présidentielle eh bien, qu'on se trouve dans une espèce de situation intermédiaire un peu bizarre.
On va être obligé de s'arrêter là, c'était passionnant. Merci Marianne Coandet pour ces réflexions d'actualité sur la manière dont la Constitution aux États-Unis comme en France a l'occasion d'être dévoyée ou violée par différents acteurs politiques, et tout cela rendu possible évidemment par le rôle des divers commentateurs. Voilà, c'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata à la technique ce soir, Anthony Thomasson à la réalisation, Jean-Christophe Francis.